Ce jour est dédié pour la bonne santé et la réussite de la famille Smama. Bon, Rosh Chodesh Adar, Bet, Baruch Hashem. Quand le mois de Adar rentre, alors on se remplit de. On marbim, on multiplie la joie. Baruch Hashem, je sais qu'on aura des très bonnes nouvelles durant ce mois-là. On va parler de la paracha. Peut-être on va peut-être bifurquer un peu sur l'actualité parce que c'est une paracha, bon, il est dur de dire beaucoup de choses. De quoi parle la paracha? Donc, paracha de Pekoudé, dernière paracha du livre de Shemot, dans le cadre de notre rubrique Les joies de la paracha. On voit en long, en large, les sommes d'or, d'argent et de produits, de matériaux nécessaires pour la construction du Mishkan, du sanctuaire, des habits et des ustensiles, tout ce qui a été donné par Am Israël. Tant et tant de Shkalim, etc., etc., etc. La question se pose pourquoi? Bon, d'accord, c'est la Torah, mais bon, c'est pas très intéressant de savoir quelles sommes d'argent sont rentrées et pourquoi c'est allé, etc. Le Midrash Rabba, c'est un des plus grands Midrashim, il dit une chose terrible. Il dit que lorsqu'on est sorti d'Égypte, les Juifs se sont extrêmement enrichis. Le Midrash dit que chacun avait au moins 80 ânes libyens, c'est les meilleurs ânes, comme ça dit la Gemara dans Shabbat, c'est les meilleurs, très solides, remplis d'or, d'argent. D'accord, 81 avec des gros sacs comme ça, remplis d'or et d'argent. Et après, en plus, lorsqu'il y a eu la traversée de la mer Rouge, là-bas, il y a encore une autre razzia de butin, de tout, parce que les soldats égyptiens partaient avec toute leur fortune sur eux, sur leurs chevaux, etc. Et ils ont fait encore une très très grande somme d'argent. Ils étaient extrêmement riches. Il y a un qui est resté complètement pauvre, il n'a pas pris un penny. Je ne sais pas s'il y avait des pennies à l'époque en Égypte, il n'a pas pris un dinar égyptien d'Égypte, qui c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est marqué « Chacham ikach mitzvot », un sage, il prendra des mitzvot. Il a pris une mitzvah, il y avait une mitzvah de Yosef. Il a conjuré les Juifs à son époque, quand vous sortirez des Juifs, vous prendrez mes ossements, vous les amenez en Israël, les enterrer. On l'a enterré à Shrem, d'accord, Naplouse actuellement. Et Moshe Rabbeinu s'occupait de cette mitzvah. C'est compliqué parce que les Égyptiens savaient cela, donc ils ont enfoncé son cercueil dans le Nil. Il a fait un truc, il a fait remonter le cercueil. Bon, il a pris le cercueil, et idem, lorsqu'il y a eu la traversée de la mer Rouge, tout le monde a pris du butin, lui il s'occupe de prendre le cercueil de Yosef. D'accord? Donc c'est le dirigeant du peuple juif, et il ne meurt pas de faim. Il y a la manne, il y a l'eau du puits de Myriam, il y a pas besoin de changer d'habits, les habits ils étaient nettoyés par les nuées de gloire qu'avait le peuple d'Israël, donc tout allait très bien. Mais l'argent, il n'avait pas. Vous dire, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a besoin d'argent? Il n'a pas besoin d'argent. Hein, il s'occupe avec Dieu, il étudie la Torah, il enseigne la Torah, etc. Et lorsqu'il revient, la troisième fois, il est monté 3 fois 40 jours au Mont Sinaï, il revient avec les deuxièmes tables de la loi, donc on voit qu'il est devenu super riche en quelques jours. Plein d'argent. Comment ça, je ne sais pas, sa femme t'allait acheter un beau bijou, je ne sais pas, on voit qu'il l'achetait avant, il l'achetait, maintenant il achète des steaks comme ça, des bons trucs. Hein. Qu'est-ce qui se passe chez Moshe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les moqueurs, comme on les appelle, du peuple d'Israël ont commencé à dire, c'est évident. Après que Moshe Rabbeinu descend, c'était Yom Kippour, descend du ciel avec le Mont Sinaï avec les nouvelles tables de la loi, il a ordonné la construction du sanctuaire. Que tout le monde amène maintenant tout ce qu'il a, tout ce qui est nécessaire pour la construction. Donc de l'or, de l'argent, du cuivre, des habits, de la laine, toutes sortes de choses. Et tous les juifs adorent Hachem. Amen. Les femmes donnent leurs bijoux, tac, tac. Et il y a des amoncellements extraordinaires d'or, d'argent, de cuivre, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour le sanctuaire. Et tout d'un coup, on voit que Moshe, qui était pauvre, il devient riche. Que disent les moqueurs du peuple juif? Ben, la pine plaie, tu crois quelqu'un qui prend chez lui tout l'argent pour le sanctuaire, il n'a pas pris une petite partie pour lui. Voilà, de là il est devenu riche. Lachonara, pas Lachonara, Mossi Shemra, mensonge, quand il y a quelque chose de négatif sur quelqu'un qui a un mensonge, c'est Mossi Shemra. C'est un des seuls, il y a deux péchés pour lesquels on peut ne jamais excuser. Quelqu'un m'a fait du mal, et il vient s'excuser, je peux 3 fois refuser. Ou 3e fois, je suis obligé d'accepter, sinon le péché est sur moi. À part 2 péchés. Un, je suis son rabbin Mouvhak. Son rabbin, d'accord, on dit celui dont il a pris la majorité de sa connaissance, ou s'il a fait un Mossi Shemra. Mossi Shemra, il a dit une chose négative qui est fausse. Ça, même 1000 fois, il peut venir à plat, raplaplat, demander pardon, en pleurant, on peut refuser. Je ne dis pas que c'est bien de refuser, c'est pas bien, il faut excuser, mais c'est très très grave. Sur qui vous parlez? Sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui a sorti d'Égypte. Il parle avec Dieu. Dieu dit, Bechol Betineman, il est fidèle, j'ai confiance en lui dans toute ma maison de Dieu. Parce que quand tu vas prendre pour la construction du temple, voler quelqu'un, c'est très grave. Mais voler de l'argent ou de l'or qui appartient au temple, c'est beaucoup plus. Une Meïla, ça s'appelle. Il faut un sacrifice pour ça. C'est extrêmement grave. Moshe va mettre un penny, un dinar dans sa poche. Mais vous êtes des malades. Attends, comment il s'est enrichi, Moshe Rabbeinu? Dieu lui a dit, tu vas maintenant sculpter, tu as brisé les premières tables, tu vas sculpter les deuxièmes. Les premières, elles sont venues du ciel. Les deuxièmes, c'est toi qui vas les sculpter. Et Dieu a ouvert une mine d'une pierre précieuse qui s'appelle le snapiriron. C'est mieux que des diamants. Et de cela, Moshe Rabbeinu, il a sculpté là, les deuxièmes tables. Maintenant, il y avait des restes. Il a sculpté, il a des restes, il a mis dans la poche, ça vaut une fortune. Et comme ça, il s'est enrichi. Ça, c'est la vraie raison. Mais il n'est pas raconté à tout le monde, d'accord? Nous, on le savait parce que les proches, ils le savaient, ils ont dit aux sages d'Israël, et ça a été inscrit comme ça dans le Midrash. Mais tous les moqueurs ont dit, ben, il était pauvre, il avait pas un dinar, maintenant il est riche comme cela, certainement, il a mis de l'argent, il tombe dans la poche. Regardez de quoi ça provient. De quoi provient-il que des êtres humains, de la génération de Moshe Rabbeinu, qui ont vu les miracles qu'il a fait, ils vont l'accuser, même pas en pensée, ils parlent entre eux, d'accord? L'accuser d'être voleur de l'argent qui est donné pour le sanctuaire. Comment on arrive à une chose pareille? Comment on fait une chose aussi basse que cela, aussi fausse que cela? Les midotes, les traits de caractère. Je me prends pour quelqu'un. J'ai toujours raison. Maintenant, vu que je suis quelqu'un, je suis mieux que tout le monde. Entre nous, nous tous, on se sent à peu près comme ça. Chacun Bon, tu dirais, je ne suis pas le Rav Yosef, je ne suis pas Moshe Rabbeinu, mais ok, dans ma catégorie, je suis quelqu'un de bien, j'ai quelques défauts, mais chacun se prend pour quelqu'un. Preuve, on a qui parle. Pourquoi c'est si dur de ne pas parler à la Chandra? La Chandra, ça veut dire, quand je baisse quelqu'un, automatiquement, je me monte. C'est le principe piscine. Quand tu es jeune, on jouait à la piscine, alors on s'enfonçait l'un l'autre. Quand tu prenais quelqu'un, tu l'enfonçais, forcément tu montais, d'accord? Alors quand tu enfonces quelqu'un, tu remontes. C'est un moyen psychologique d'affirmer son moi quand tu juges les autres négativement. Quand tu les observes, tu donnes ton avis. Bam! 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 Je suis quelqu'un, je descends tout le monde, d'accord? Dire que Moshe Rabbeinu est un voleur, ah! Je suis super quelqu'un, je suis au moins égal à Moshe, encore mieux que lui, d'accord? L'ego! L'ego, le fichu ego! À ce point! Là, je bifurque sur l'actualité. Qu'est-ce qui se passe? On est au bord d'une guerre mondiale. On est au bord d'une guerre mondiale. Hier matin, le ministre de la Défense russe, il a dit la troisième guerre mondiale sera une guerre nucléaire. Et comment on arrive à ça? Je ne comprends pas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est une boucherie en Ukraine. Et pour les Russes, ils ont perdu des milliers de soldats. Vous me direz, ils s'en foutent. Ok, mais c'est quand même une boucherie. En Ukraine, et ils se battent, et c'est terrible. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des dizaines d'années, il y a la Russie, il y a la Ukraine, il y a l'Europe et l'Amérique. Bon, ça va, il y a un peu des tensions par-ci, par-là, mais ça tient. Qu'est-ce qui leur a pris? L'Ukraine, Biden fait tout pour convaincre l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Poutine dit si tu rentres dans l'OTAN, attention, ça va aller mal. Et ils se... C'est l'ego. L'ego, encore l'ego, tu touches dans mon domaine, je ne suis pas d'accord, et je prends même plus de place que ce que je devrais avoir, chacun. Et pour finir, on rentre dans ce qui peut devenir peut-être la troisième guerre mondiale, à Dieu ne plaise. En Amérique, j'ai parlé hier avec quelqu'un à New York, il m'a dit dans tous les journaux, ils disent le next step, la nouvelle étape, la prochaine étape, c'est la Chine avec Taïwan. Idem, si la Chine attaque Taïwan, là, c'est fini, c'est la guerre mondiale. C'est clair que l'Amérique va attaquer la Chine. On n'attaque pas la Chine avec des petites bombes, d'accord? La Chine, c'est un grand pays, ça sera forcément nucléaire, des petites bombes nucléaires, puis après des grosses bombes nucléaires, deux tiers du monde qui partent en cacahuète. Si ça a lieu, c'est fini. C'est fini. Et moi, je pense que ça aura lieu. J'espère que non, mais il y a l'ego. Il y a l'ego. Comment, moi, la Chine, je peux laisser. Je suis un pays énorme, 1,5 milliard d'habitants. Il y a une petite île, ça s'appelle Taïwan, elle est à moi. Ça va, tu as des millions de milliards de millions de milliards. Il te faut encore cette petite île. Oui, c'est à moi. Et l'Amérique dit, non, c'est pas à toi. Mais pour cette île, vous allez vous détruire s'il y a une guerre atomique entre la Chine et l'Amérique. Mais il n'y a plus de Chine, il n'y a plus d'Amérique. Réfléchissez, regardez la Russie, un bon exemple, la Russie et l'Ukraine. Des milliers de morts, de la souffrance, pour rien, pour rien, pour rien de rien, tout allait bien, vous étiez heureux. Poutine, il est en pleine déconfiture économique, son peuple est contre lui, des milliers de morts, l'Ukraine est la moitié détruite, et on est loin de la fin, loin de la fin. Pourquoi ? Moi, je. Mon ego. Moi, je. Et je raconte une chose que j'ai souvent racontée ici pour montrer à quel point c'est bête. C'est bête. J'ai une fille qui a 20 ans aujourd'hui. Elle avait 3 ans il y a 17 ans. Et j'ai fait une expérience éducative à la maison, Shabbat, devant toute la famille. Et je lui ai dit, tiens, je te donne deux options. À toi, un bonbon, et à ta grande sœur qui a 1 ou 2 ans de plus, 4-5 ans, 2 bonbons. Ou bien, rien à personne. Je n'ai pas eu le temps de finir la phrase, elle dit rien à personne. C'est tellement, tellement la réaction de l'ego. Je suis prêt à rien avoir pour pas que l'autre ait plus que moi. Tu es détruit. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on voit entre Zelensky et Poutine. Ils sont prêts à se massacrer et bientôt Biden et Xi Jinping, d'accord, le président de la Chine, ils vont se massacrer. Un massacre en Latine-Amérique, ce n'est pas 2-3 personnes. L'Ukraine et la Russie, c'est un hors-d'œuvre. Pourquoi ? Ils le savent. Ils le savent. Voilà. Le ministre de la Défense russe, il a dit la prochaine guerre sera une guerre nucléaire. Donc tu sais que tu vas vers une guerre nucléaire. Mieux vaut ça plutôt que la Chine me dépasse. L'Amérique, elle sent que la Chine monte. Ils vont tout faire pour entrer en guerre. Perdre. Et les perdre. Je préfère avoir aucun bonbon plutôt que moi, un, et elle, deux. Idem avec l'Ukraine et la Russie, c'est toute une histoire d'ego, de petits enfants. En Yiddish, on appelle ça le kindergarten, jardin d'enfants. Johnson, il a vu sa tête. Même au milieu de la journée, on dirait qu'il va se lever du lit, d'accord. Il a dit à Poutine, quoi tu crois, avec les bombes atomiques, tu nous fais peur. Nous aussi, on a des bombes atomiques. Deux gosses dans la récréation, en train de dire, moi je. Deux gosses. Mais avec des bombes atomiques. À la récréation, ils ont des billes, d'accord. Là, ils jouent avec des bombes atomiques. C'est ça les gens qui sont censés nous diriger. Des pauvres types. Des pauvres types pleins de ego, moi je. D'ailleurs, que faire pour quelqu'un qui veut dire qui devient président? Qu'est-ce qu'il a d'autre dans la tête que moi je? D'accord. Ça va, reste tranquille avec ta famille, t'as de quoi vivre heureux. Quelqu'un aujourd'hui, un temps, quand un roi devenait roi, il devenait un dirigeant respecté aujourd'hui, t'es un gouvernant. Tout le monde te critique. Tu es la risée de tout le monde. Qu'est-ce que tu gagnes à ça? Au moins, on m'appelle. Tu n'es pas gouvernant, tu n'es rien, tu es un nul. Mais au moins, on m'appelle gouvernant. On me tombe dessus, moi, on m'appelle gouvernant. Complètement idiot. Moshe Rabbeinu, qui est le vrai roi d'Israël, un vrai roi, qui est vraiment grand, que Dieu témoigne, il est fidèle dans toute ma maison, je le crois, je lui parle. Il m'appelle, je viens, je lui réponds. Il fait des miracles qu'aucun être humain a fait dans la vie. Il amène la Torah ici sur terre. Quelle est la seule qualité? Il avait toutes les qualités, c'était un homme exceptionnel. La seule qualité que vante la Torah? L'humilité. Et l'homme, Moshe, est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Ça, c'est un roi. Ça, c'est un vrai roi d'Israël. Le Mashiach que nous attendons, c'est marqué humble sur un âne, d'accord? Humble! C'est ça la vérité! Qui es-tu? Dieu te donne tout, de A à Z. T'as rien fait pour. Même ta volonté qui fait que tu as des envies de faire, tu réussis, tu as des efforts, etc. C'est Dieu qui a donné tout cela. Quelqu'un qui comprend qui il est, mais il se fait carpette. Et sinon, et on lui met des bombes nucléaires dans les mains, au bout d'un moment, le mal, il les voit disparaître. Comment? C'est pas Dieu qui va le punir, on va les laisser ensemble. Ils vont s'éclater en petits morceaux avec le moi-je, et boum, badaboum. Voilà, c'est ce que nous pouvons apprendre de cette paracha. À quel point, et même la Torah, donc, elle a dû écrire des pages et des pages pour faire les comptes à cause des pauvres types qui disaient que Moshe Rabbeinu était un voleur. Alors, nous, on va attendre. On espère que bientôt l'humble sur un âne viendra nous sauver de ce monde de moi-je. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.